Bonjour pour ce 37e numéro de Reconfinez-vous à nous. Nous avons joint par téléphone Roland Mogne.
Oui, Michel.
Le prochain invité des Visio Mardi de Langevinière. Roland Mogne interviendra via l'application Zoom sur le thème « Les plantes magiques, secrètes et symboliques de Bretagne » ce soir à 20h. Inscription et renseignements sur le site de l'Agence culturelle bretonne. Roland Mogne est aussi le créateur de la base de données Plantes Quelles.
Je me suis mis à collecter les plantes parce que j'ai réalisé que les ouvrages qui parlaient de noms celtiques, etc., lorsqu'il s'agissait de noms de plantes, ne s'étaient pas affrontés, si tu veux, à une critique profonde, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire, hein, ils n'étaient pas botanistes. Et on dit beaucoup de choses approximatives, voire contradictoires, voire impossibles, enfin, etc. Hein. Donc, j'ai dit, il serait temps de faire quelque chose qui mette un peu d'ordre là-dedans. Donc, j'ai collecté. Au départ, je pensais ne faire que les noms bretons, et je pensais en trouver 5000. J'étais content, j'ai dit, si je trouve 5000 noms bretons, je serais content. Bon, j'en ai trouvé 39 000, ce qui m'a déjà un peu laissé sur le cul de voir la richesse de la langue bretonne par rapport aux noms des plantes. Et puis finalement, je me suis perçu que les noms bretons des plantes étaient un peu les mêmes en gallois. Il y a quand même 14% de noms qui sont communs entre ces deux langues-là. Et puis qu'il y avait aussi des noms communs qui étaient à tout le domaine celtique, c'est-à-dire y compris le système gaélique, le monde gaélique, ce qui fait que par exemple, Fren se dit On depuis le nord de l'Écosse jusqu'au Pays de Ré. Donc c'est un nom d'arbre, c'est lié au fait que les arbres sont des grands conservateurs de termes. C'est pour ça qu'on a le chêne en français qui vient du gaulois, et etc. Partant de là, bon, j'avais déjà les langues celtiques, là je me suis aperçu que l'anglais avait été énormément influencé par des langues celtiques, et puis qu'il était aussi germanique, et puis aussi qu'il était français. Il y a beaucoup de termes de plantes français qui sont entrés dans l'anglais. Mais bah, il a fallu déborder sur l'allemand, il a fallu déborder sur tout un tas de choses. À un moment donné, j'ai été obligé de limiter mon corpus. Je n'ai pas pu éviter de prendre évidemment les mots latins, vulgaires si on veut, quoi, qui n'étaient pas encore scientifiques, et qui n'est pas des latins de Rome, c'est le latin à partir du 1er au 18e qu'il est la fin de l'usage des mots latins dans les descriptions de plantes et tout. Après, Linné est intervenu, et là, il a fait des mots en linnéen. C'est une forme de latin, mais c'est surtout pas du latin. Il ne suit absolument pas les règles grammaticales du latin. Au niveau linguistique, le linnéen et le latin sont deux langues différentes. Je me suis arrêté à 30 langues, dont des langues rarissimes, évidemment, pour lesquelles il y a des mots intéressants. J'ai même des argots, et des langues secrètes pour des langues de voleurs, par exemple. Et mais aussi, par exemple, la langue de Hildegarde de Bingen, qui était une femme remarquable, hein, du XIe siècle, qui a inventé un langage pour ses plantes, de façon à ce qu'on ne sache pas quelle plante elle utilisait pour ses médicaments, qui étaient, semble-t-il, efficaces. Lorsqu'on regarde ce qu'elle a utilisé, on s'aperçoit qu'effectivement, ce sont des plantes efficaces, par exemple du thym pour désinfecter, etc. C'était une grande scientifique et une dame de grande bonté, si on veut. Hein. C'est quelqu'un qui a monté un véritable hôpital pour pouvoir soigner tout un tas de gens, et je pense qu'elle le faisait de façon efficace. Elle a inventé des noms de plantes. Il y a aussi des noms de plantes rares, par exemple, en celtibère, je crois que j'en ai 4 ou 5, langue celtique. En galade, j'en ai un seul nom, de plantes celtiques, de plantes... donc le galade, c'est le celtique de Turquie, hein, enfin d'Anatolie, etc. En celtique de l'Est, j'ai très peu de choses aussi, j'ai 2 ou 3 noms. En gaulois, j'ai près de 500 noms, hein. Ce qu'on a retrouvé dans les textes gaulois, qui sont pourtant très rares, révèle souvent des quantités de noms de plantes, et surtout, la grande source, c'est les Romains, enfin le latin, qui, à la suite des armées romaines, expliquaient comment on décrivait telle ou telle plante. Donc là, on retrouve les noms latins de l'époque, et on retrouve donc, à ce moment-là, le nom gaulois. Maintenant, j'en suis rendu à avoir collecté 386 000 noms de plantes, ce qui fait un corpus sur lequel on peut réfléchir. Et je me suis aperçu qu'il y avait des lignes de force permanentes entre les comportements des humains sur les plantes. Par exemple, le fait qu'on part d'une époque où il n'y avait que les plantes spectaculaires qui étaient soignantes, que les arbres ne l'étaient pas, enfin, etc. Et on retrouve ce type de comportement depuis les Grecs anciens jusqu'à nos jours quasiment. Il y avait des lignes de force, et puis après, localement, énormément de variations. Simplement, il faut voir que les humains, dans toute la Terre, j'ai été mettre mon nez dans 200 langues, y compris des langues de le chinois, y compris des langues d'Afrique centrale et sud, des langues amérindiennes, je suis allé un peu partout. En fait, les humains ne désignent les plantes que par 10 façons. Il n'y en a pas plus, c'est soit en décrivant la plante, par exemple, on peut dire « elle évolue », soit en désignant son usage, par exemple, « elle soigne la grippe », la plante de la grippe. Bon, il n'y en a pas, mais c'est un exemple. soit par sa date de floraison, la plante de la Saint-Jean ou la plante du milieu de l'hiver. On arrive à 10 façons de nommer les plantes, y compris donc chez les Esquimaux du Caribou, qui ont une particularité évidente, vous le savez sans doute, tout le monde sait qu'ils n'ont pas de plantes. Et c'est pour ça que dans les Esquimaux du Caribou n'ont pas la couleur verte. C'est assez étonnant. La mer n'est jamais verte là-bas, et il n'y a pas de mots pour désigner le vert, et quand ils voient du vert, ils sont étonnés, quoi. Enfin bon.
Est-ce que tu peux nous parler du contenu de ta conférence ?
Il se trouve que les plantes, les noms à un moment donné, reflètent aussi leurs usages, notamment lorsque le nom de la plante décrit ses propriétés. Et en creusant dans les usages, à un moment donné, on quitte le domaine rationnel et scientifique pour entrer dans le domaine mythique. Et toute la gymnastique que je vais expliquer, c'est qu'il y a toujours un fond rationnel à ces dénominations irrationnelles qui fait que la plante fait perdre son chemin, que la plante n'a pas de graines et pourtant se reproduit, etc. Il y a toujours une explication rationnelle au départ, celle qu'on voit seule sous l'éclat de la lune. Je l'ai vu. Les plantes qui remontent le courant, j'ai vu. Et après, il faut les expliquer. C'est pas parce que j'ai vu que ça existe. Et c'est là qu'évidemment, on passe du rationnel à l'irrationnel. Mais il y a une explication. Par contre, après, lorsqu'on a réussi à mythifier une plante, là, on va broder sur le mythe. Et là, on quitte totalement le fond rationnel qui avait permis la création de ce mythe et on va se trouver avec des plantes, par exemple, celle sur laquelle le pivert aiguise son bec. Bon, si vous voulez, là, ça n'existe plus. Celle qui permet de comprendre le langage des chiens et des oiseaux, pareil, ce n'est pas des plantes qui existent, bien sûr, quoi. Mais par contre, celle qui fait qu'on tombe brutalement mort de faim n'existe que dans un seul pays et ça a été au 19e siècle que ce mot a été créé, en Irlande. Lors de la grande famine, on a créé des plantes sur lesquelles, si on montrait dessus, on mourrait de faim. Et on trouvait des gens qui étaient morts de faim, oui. L'homme est un être mythique et donc il ne s'est pas privé, notamment sur les plantes. Hein, et c'est dans tous les pays. La Bretagne a fait comme les autres. Donc on va dénouer tout simplement ces choses rationnelles. Puis il y a des choses totalement irrationnelles. Je vais parler d'une plante qu'on ne peut pas photographier alors qu'elle existe. Donc il y a quand même du mystère même dans ce que je vais dire.
Au début, c'était les plantes magiques de Bretagne. Après, ça a été les plantes magiques, secrètes et symboliques. Tu peux expliquer l'évolution du titre ?
Les plantes magiques sont celles qui, effectivement, ont été parées de vertus magiques. Quelques-unes sont médicinales, la plupart sont superstitieuses. Bon, les plantes secrètes, ce sont des plantes dont on ne parle pas beaucoup et qui pourtant sont très utilisées. Je parlais d'une seule, le gilgrès.
Les symboliques ?
La plante symbolique, c'est tout simplement lorsqu'on a décidé en 2006 à l'Institut culturel de Bretagne de définir quelle serait la plante symbole de la Bretagne. Et on a lancé une enquête sur la Bretagne et on a eu des réponses assez étonnantes, près de 1000. Il faut imaginer ça, quoi. Quelle serait pour vous la plante symbole de la Bretagne ? Et 1000 personnes répondent disant pour moi ce serait telle chose, telle plante. Il s'est dégagé tout de suite, dès le départ et jusqu'à la fin, une plante qui est vraiment le symbole, c'est l'ajonc. Donc les ajoncs qui sont parés de plusieurs propriétés, notamment le fait qu'il y a toujours une fleur d'ajonc quelque part en Bretagne. Alors je l'ai testé, c'est probablement vrai. Alors il faudrait faire un concours pour qu'on photographie une fleur d'ajonc tous les jours de l'année. Mais c'est probablement vrai parce que l'ajonc, c'est 4 espèces différentes de plantes qui fleurissent à des périodes différentes. Donc elles se prennent le relais l'une de l'autre. Et dans ce cas-là, on a toujours des petites fleurs d'ajonc de ci, de là, même en plein été, c'est l'époque où il y en a le moins. Si l'ajonc, par exemple, a été coupé, bien, il va faire une floraison de récupération. Et dans le temps, on nourrissait les chevaux avec l'ajonc, c'était connu en Bretagne. On hachait l'ajonc au Ashland et après, on le donnait aux chevaux. Et donc, ces ajoncs qui avaient été coupés pour faire de la nourriture des chevaux, on prenait les pousses au départ du printemps, refleurissaient au moment où il n'y avait pas beaucoup de fleurs d'ajonc. Donc, j'ai eu un jour la question d'une personne qui me dit « Mais je me suis baladé, j'ai pas vu une seule fleur d'ajonc. » J'ai répondu « Les fleurs ne poussent que sur les ajoncs qui ont été taillés pour donner à manger aux chevaux. » À cette période de l'essai, en fait, en août, quoi. Au mois d'août, c'est là qu'il y a le moins de fleurs. Et il n'y a que les ajoncs qui ont été cassés qui fleurissent à ce moment-là. Il n'y a pas que pour la nourriture des chevaux, mais ceux qui ont été cassés qui fleurissent. Mais il y a probablement, effectivement, le fait que tous les jours de l'année, on pourrait trouver une fleur d'ajonc. Un ajonc en fleurs, quoi.
Si je veux comprendre la langue des animaux.
L'herbe au pivert, quand on monte dessus, on s'évanouit. Et quand on se réveille, on comprend la langue des chiens et des oiseaux.
Cette herbe au pivert, dans le Finistère, ça permet de comprendre la langue des animaux. Et à Guérande, ça permet de faire bonne fortune.
Elle permet de trouver de l'or, en fait. C'est un lycopode qui a presque disparu parce qu'il vit dans les zones un peu humides. Alors évidemment, on les a drainés pour faire de la culture. Qui émet un pollen extrêmement abondant, couleur jaune d'or. Et ce pollen a des propriétés, bien sûr, pharmaceutiques, mais aussi des propriétés assez étonnantes. Une poudre de pollen, vous allumez et choc, vous avez une grande flamme qui apparaît puis qui disparaît instantanément, bien sûr. Et c'était utilisé dans des trucs de théâtre, dans l'initiation des francs-maçons, enfin, etc. Ce pollen était très utilisé, c'est une plante qui était connue. Et il est extrêmement solide, puisque j'ai expérimenté sa solidité sur un lycopode du Jura. Si je prends le pied dedans et que je m'entoure les pieds, je ne peux pas m'en défaire. Il faut le couper.
Mais le rapport avec la compréhension de la langue des animaux?
Alors, on est dans le mythe du mythe, là. On est loin de tout. Personne n'a jamais compris le langage des animaux, ni des oiseaux, bien sûr. C'était vraiment quelque chose qui était de merveilleux. Là, on est plutôt merveilleux que dans le mythique, hein. Il y a pas... Là, c'est faux complètement. On ne comprend pas, hein, bien sûr. Il n'y a pas de plantes qui ont des propriétés comme ça. Bon, ceci dit, cette plante a presque disparu. Il en reste deux pieds actuellement dans toute la Bretagne, en forêt de Nivotte. On cache soigneusement l'endroit où il pousse parce qu'on trouverait des gens qui le cueilleraient. Mais il suffit d'aller en Autriche, où vous avez des prairies entières avec cette plante-là. Sauf que là-bas, elle n'a pas les propriétés de la plante bretonne, comme d'habitude. On a la même chose avec la mandragore, dont je parlerai, qui est une plante extrêmement puissante, mystérieuse et tout ce qu'on veut, qui est une mauvaise herbe au Maghreb. Les gars, en bordure, ils coupent les pieds de mandragore pour les enlever, quoi. Donc, normalement, quand on l'arrache, elle pousse un cri qui tue celui qui l'arrache, etc. Elle est très, très fortement mythique, cette mandragore. C'est lié au fait que la racine ressemble à une tête humaine. Elle ressemble à une petite betterave, très tourmentée de pourtour, qui n'est pas lisse du tout, et on voit souvent. En la tournant à droite à gauche, on arrive à avoir un profil humain.
Sauf que c'est pas une plante bretonne.
Mandragore, il n'y en a jamais eu en Bretagne. Il n'y en a jamais eu en France. Il n'y en a jamais eu en Allemagne. Et il y a plein de représentations. On disait qu'elle venait sous les gibets parce qu'elle était produite par le sperme des pendus. Tout ça, c'est faux. On est dans le mythe total. La Bretagne a mis facilement toutes ces plantes-là. Alors, bah, par exemple, tu as la jusquiame ou des choses comme ça dans les plantes poison. Aussitôt. C'est un pays où il y a beaucoup de plantes empoisonnées. Les fruits d'arôme, par exemple, c'est du pain de vipère. Ça, moi, j'ai connu ça dans mon enfance, hein, etc. On ne prend pas les grains de cette plante-là. Et en plus, c'est l'endroit, effectivement, où il y a des vipères. Donc, on n'y va pas. Hein. Les enfants n'y vont pas, quoi. Mais en Bretagne, il y a peu de plantes de sorcellerie vraies, hein, qui seraient éventuellement des psychotropes issus de Solanacées, quoi. La Bretagne est restée assez étanche aux pratiques, comment dire, de magie, quoi, du continent européen. Le problème, c'est que l'origine de ces pratiques en Bretagne vient à peu près à moitié du fond celtique et l'autre moitié du fond français, qui est en fait un fond germanique. Il n'y a pas de pharmacopée française, en fait. Elle est issue notamment des écoles de Heidelberg et de Bâle, en Suisse, qui ont défini la plupart des propriétés magiques de ces plantes-là. Ce sont elles qui, par exemple, qui ont créé la théorie des signatures. Ça, c'est entre 1530 et 1580, où Dieu, dans sa bonté infinie, a laissé sur la plante la trace de son usage. C'est comme ça que l'hépatique, qui est une plante dont les feuilles ressemblent à des lobes du foie, a été utilisée pour soigner le foie, alors qu'en fait, c'est une plante toxique. Le dompte venin, dont le fruit ouvert ressemble à la tête d'une vipère prête à mordre, a été aussi utilisé pour soigner les morsures de vipère, et c'est aussi une plante toxique. Donc la théorie des signatures est une catastrophe sur le plan pharmaceutique. Il y a eu des choses extrêmement compliquées qui ont été inventées, alors, en grande partie au 19e. Les Celtomanes ont beaucoup forcé, par exemple, pour l'histoire de l'herbe d'or, justement. Elle ne vit que dans les prairies à trois coins. Il n'y a qu'un seul pied par prairie, qui doit être près d'un cimetière. Il faut y aller une nuit de pleine lune. Il faut y aller pieds nus. Alors, lorsqu'on la voit, on se précipite. Lorsqu'on arrive à son niveau, on ne la voit plus. Donc, il faut tout prendre, tout ce qui est autour, pour la ramener chez soi et pouvoir bénéficier de ses propriétés, etc. Puis, alors, il y a le nombre de semaines pendant lesquelles le malade ne guérira pas. Enfin, on est dans le... Moi, je dirais, dans ce cas-là, le délire mythique des Celtomanes du 19e, quoi. Ils en ont rajouté, quoi.
On peut peut-être parler du gui.
Le gui est, depuis très longtemps, une plante mythique parce qu'il vit sur un autre arbre. Les Celtes l'ont toujours défini comme étant un excès d'arbres. Il pousse sur 40 plantes, mais il ne pousse pas sur du chêne. On en reparlera. Pline l'Ancien décrit une plante, ça s'appelle le gui de chêne, effectivement. Pour le gui ici, parce que nous venons de passer les fêtes de fin d'année, mais beaucoup de personnes ont mis du gui au-dessus de la porte, au-dessus de quelque chose, mais c'est pas forcément un gui porte-bonheur. Parce que pour qu'il porte bonheur, il faut premièrement qu'il soit volé à l'insu du propriétaire de l'arbre. Deuxièmement, qu'il soit cueilli par une personne seule. Troisièmement, qu'il n'ait jamais touché le fer. Et là, on rejoint un grand mythe encore. Quatrièmement, qu'il n'ait jamais été en contact avec le sol. Donc, il faut le porter à la main et l'accrocher immédiatement. Et là, il portera bonheur. Donc on comprend mieux que, par exemple, au début de l'année 2020, bah, les gens ont mis du gui n'importe comment et ça n'a pas trop porté bonheur, effectivement. Le gui, si tu veux, j'en parle parce que le gui sur du chêne, ça n'existe pas. Donc c'est démolir un mythe, là aussi, parce que même les druides se revendiquent d'avoir du gui venu de chêne et c'est toujours faux. Le gui ne pousse pas sur le chêne. On m'a signalé des dizaines de fois du gui sur des chênes et je suis allé voir, c'était généralement un arbre qui était à côté du chêne, par exemple un acacia, qui avait du gui. Et on voyait du gui parmi des feuilles de chêne, effectivement. Mais il n'était pas sur le chêne. Mais là, je suis allé bien des fois, un peu partout.
Tu vas décevoir les astérixophiles.
Oui, mais je suis le scientifique, donc je tape.
On peut faire une connexion avec les druides.
Oui, le premier personnage romain qui parle du gui, c'est César, en moins 57. Bien. Le deuxième, c'est Pline l'Ancien. Mais là, on est en plus 80. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a eu quatre générations de tradition orale. Et le texte de Pline l'Ancien, sur lequel se fondent à peu près tous les amoureux du gui, parle d'une cérémonie, le druide dans sa saie blanche, il y a un linge en dessous pour que le gui tombe dedans, il va avec une serpe d'or, c'est-à-dire en airain, bien sûr, etc., etc. Il y a un mythe, il y a deux bœufs que l'on sacrifie. Alors, il faut savoir que c'est un texte de Pline l'Ancien qui sont des stances à l'empereur Claude, c'est-à-dire des textes pour son plaisir, et que là, Pline l'Ancien a anticipé toute la période romantique du 19e français en mettant des cérémoniaux extrêmement élaborés et tout. Et il a confondu le gui qui est en Gaule, qui était en Gaule à l'époque encore, du gui qui est en Italie, qui n'est pas la même espèce, et qui lui pousse sur du chêne. Donc le gui des Gaulois et le gui de Pline ne sont pas la même espèce de gui. Ça, c'est un scoop. Alors les Allemands sont à cheval sur les deux répartitions. Et donc, ils distinguent, eux, le gui du Nord et le gui du Sud. Le gui du Sud, c'est le gui du chêne, effectivement, qui vit sur les chênes et les châtaigniers. Et le gui du Nord, c'est notre gui à nous, qui vit sur beaucoup d'autres plantes, mais pas sur le chêne. Il y a actuellement un chêne qui a du gui, et il est quasiment mort, parce que, en fait, la barrière hormonale qui empêchait la germination des graines de gui sur son écorce a été levée par la grande maladie du chêne, et ça se trouve, il est crevé maintenant, ce chêne, quoi. Donc, ça compte pas. Par contre, il y a des chênes avec du gui à Blain. Il y a des chênes couverts de gui à Blain. À Blain et Éric, dans la campagne. Mais ce sont des chênes américains qui ont été plantés. Ils sont beaucoup plus tendres que les chênes locaux. On ferait bien de les détruire tous parce qu'ils sont en train de s'hybrider avec les chênes locaux et donner des chênes bizarroïdes. Je parle de ce gui sur du chêne là, mais c'est le Quercus palustris qui est un nord-américain introduit parce qu'il a deux intérêts. Il a un tronc très droit, il n'est pas tordu, et il perd ses feuilles en quelques jours toutes. Ce qui fait que les services municipaux de ramassage des feuilles ne passent qu'une fois sous ces arbres-là. Il faut penser à tout, hein, pour les plantes.
Sur le sens de ta démarche, quand je lis un titre emprunté au Télégramme en 2019, Plante magique, la tradition populaire, c'est n'importe quoi.
Parce que c'est le scientifique qui parle. Il n'y a pas de rationalité, évidemment, dans la tradition populaire. Toutes les propriétés sont évidemment fausses. Ce que je veux dire n'importe quoi, c'est que ce n'est pas forcément non plus des définitions de grande qualité ni rien. L'herbe de la Saint-Joseph, par exemple, au Pays de Retz, c'est parce qu'elle est en fleur à la Saint-Joseph, quoi. Donc après, partant de là, il y a une maladie de Saint-Joseph, je ne sais plus laquelle, donc elle est censée soigner cette maladie. Mais le scientifique, il hurle en voyant les raisonnements qui président à ce genre d'application des plantes.
C'est n'importe quoi à partir du moment où on en fait un fondement scientifique, mais c'est pas n'importe quoi, un mythe.
Je suis d'accord, scientifiquement, c'est n'importe quoi, maintenant, après l'usage du mythe, mais bien sûr. Mais là, je refuse de mettre mes pieds là-dedans, même pas le doigt.
Comment tu vis ce moment de Covid?
Alors, ce moment de Covid, ben, je le vis isolé, enfin, dans, disons, la cellule nucléaire familiale. On invite des amis, mais deux par deux, et on reste éloigné. On a une pièce suffisamment grande. On prend toutes les précautions que l'on peut pour éviter de faire des bêtises. Mais en même temps, moi, je le vis dans le grand luxe parce que pour la première fois depuis 20 ans, mon jardin a été nickel. Et lorsqu'on a un jardin et qu'on a en plus une serre, enfin deux serres à orchidées, bah, elles n'ont jamais été aussi bien parce que je passe un bon quart d'heure tous les jours à examiner toutes mes plantes et tout ça. J'ai considérablement augmenté la qualité de mon environnement végétal, si tu veux. Par contre, bah, les grosses fêtes de copains, bah, là aussi, peut-être que c'est le rationalisme scientifique. C'est pas le moment, mais on verra ça dans un an, c'est sûr. C'est un mauvais, très, très mauvais moment à passer. Mais c'est pas maintenant qu'il faut surtout se relâcher. Et malheureusement, bah, y en a qui se relâchent toujours, quoi. Qui admettent pas qu'on leur dise quoi faire. Et ils ont pas compris que l'intérêt commun passait par la prise de conscience du problème et de la mise en place de gestes barrières en permanence, quoi.
Tu vis dans des conditions agréables, de confort.
Un jardin et une serre, c'est du grand luxe, oui. Là, c'est clair.
On peut être dans le grand luxe et souffrir d'isolement.
Non, on se parle entre voisins, on est à 10 mètres l'un de l'autre, ça gêne pas. On fait de la musique, comment dire, lors du premier confinement, on faisait avec un autre sonneur qui était un peu plus haut dans la rue, on alternait, un soir sur deux, on faisait de la musique. Et là, on a fait une aubade de Noël où on a réuni tout le quartier. Bon, il y avait une quarantaine de personnes qui étaient à nous écouter, jouer Bombard Bignou Cause. Et on continue de répéter. Donc, comment dire, j'ai toujours une activité, d'une part, et puis d'autre part, on continue de se voir et on a resserré nos liens entre voisins, ce qui n'était pas mal aussi. C'était assez intéressant de ce point de vue-là. Il y a des gens qui ne s'étaient jamais parlé parce qu'ils n'avaient pas eu besoin et qui se sont mis à se parler, à se saluer, etc., à se prendre des nouvelles les uns des autres. Voilà. Donc, pour moi, mais pour tout le quartier, on a tous des jardins autour. Pour nous, ça se passe plutôt bien parce qu'on peut prendre l'air, on peut se mettre pieds nus dans l'herbe, on peut faire plein de choses que malheureusement beaucoup de gens, tous ceux qui sont en appart, tout ça, peuvent absolument pas faire, quoi. C'est une vie refermée. Je pense que les jeunes ont des besoins de se retrouver entre jeunes. Il me semble qu'on peut pas échapper à ce genre de besoin de leur part, qu'ils ressentent, quoi. Tandis que nous, ça va, on discute avec les voisins, on discute entre nous. Bon, j'ai fait plein de choses que j'aurais jamais osé faire, hein. Je nettoyais toute ma serre avec une baguette dans les tout petits coins noirs où on ne peut pas nettoyer. Tout ça s'est fait. Le confinement m'a contraint à faire des choses que je voulais faire. Voilà.
Vivement le troisième confinement.
C'est pas à ce point-là, parce que là, je suis au point. Mais j'ai d'autres choses à faire, donc c'est pas grave. Je suis en train de préparer l'étude d'un manuscrit, là. Bon, j'ai étudié deux manuscrits gallois du milieu du 14e, et là, c'est un manuscrit britannique du milieu du 10e. Et j'ai débusqué les derniers noms de plantes que personne n'arrive à trouver. Moi, je les ai trouvés. Donc,
Ce n'est pas les derniers parce qu'il y en a encore plein d'autres.
oui, mais de ce manuscrit, quoi. Il y en a un qui peut être éventuellement mis en cause, mais ce sera un seul sur 38 noms de plantes. On arrive quand même à une explication assez intéressante de l'ensemble du manuscrit, quoi. Enfin bon, ce sera une publication qui, soit elle va être admise et les gens vont dire bravo, soit je vais prendre une volée de bois vert sur le coin de ma figure, quelque chose de carabiné. Ça va être selon les réactions des gens, quoi. Parce qu'il y a eu un ouvrage soi-disant définitif sur ce manuscrit en 2005, et puis, c'est pas vrai. Il y a des bêtises de dites, donc j'ai repris, quoi. Parce que je suis botaniste. Et le tout, c'est la double palette, botaniste et puis celtisant, quoi. Ce qui fait qu'il y a très peu de monde qui est pointu en botanique. Moi, je suis bac plus 6 en botanique, quand même. Je suis bac plus 8 en celtique. Donc, il y a très peu de gens qui ont ce niveau de qualification, qui peuvent dire des choses sur les plantes sans tomber dans les pièges du fait qu'ils connaissent pas assez, quoi. D'où l'intérêt de ma position. Je reçois des demandes de un peu partout du monde sur des noms de plantes précis, etc. J'ai une position qui est très confortable et valorisante, quoi.
Est-ce que ce sera ta première visioconférence?
Non, ce sera ma deuxième. Dimanche dernier, j'ai fait une visite commentée de toute ma serre avec toutes les fleurs d'orchidées, expliquées et tout. Là, la différence, c'est qu'il faut que j'inclue les photos. Alors que dimanche dernier, c'était carrément mon portable qui filmait la serre, puisque mon ordinateur était resté à la maison, et j'avais mis en toile de fond un portrait de moi, habillé comme j'étais dans la serre. Si bien que quand je suis revenu, je me suis mis juste dans le cadre de moi, avec les mêmes fringues, puis à un moment donné, j'ai bougé, et les gens ont vu qu'il y en avait deux. Voilà, c'était un clin d'œil.
Ça te convient ce mode-là? Ça t'ouvre vers d'autres perspectives?
Non, non, c'est mieux que rien, mais ça reste d'une convivialité très faible. Non, non, on n'arrive pas à être conviviaux par ce genre de communication, même tu vois, à la Société des Orchidées, on a tous trinqué au Nouvel An avec notre verre et tout. Bon, là, on a tous souri, on a tous montré ce qu'on était en train de boire et tout ça, à la fin de ma conférence, mais c'est tout. Non, non, c'est pas la même convivialité. On est un peu, je sais pas comment dire, quoi, hein. C'est insipide. On a des relations qui ont beaucoup moins de goût, quoi.
Mais il faut quand même le faire.
C'est beaucoup mieux que rien.
On pourra attendre.
Non. Non, non, il y a des associations qui actuellement se délitèrent, quoi. Faut se méfier de ça. La cohésion est importante avec les rapports entre les gens et faut les maintenir absolument. Et c'est pas évident. Il y a des gens qui refusent, par exemple, bien sûr, d'assister à des choses comme ça, hein, encore actuellement.
Oui, ou c'est parce qu'ils savent pas comment procéder.
Alors, ils n'osent pas. Ils n'osent pas et certains n'ont pas le matériel non plus. Ça, c'est un autre problème. Mais il y en a qui n'osent pas. Ils veulent pas se lancer. Pourtant, là, par exemple, si tu prends Google Meet, tu as un seul clic à faire. Et là, sous Zoom, c'est aussi un seul clic. Donc, c'est des trucs extrêmement simples qui fait que tu es tout de suite rendu dans la salle de réunion, quoi.
Mais sauf que tu as l'impression d'être isolé dans le groupe, en fait.
Oui. On reste isolé dans le groupe, oui.
Ça change le rapport.
Oui. Il y a des réactions bizarroïdes. Par exemple, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on voit à l'intérieur de leur maison. J'ai eu ça comme réaction pour des gens qui ont refusé de participer. Non, non, on reste chez nous, on veut pas, non, non, ça regarde pas les autres ce qu'on a chez nous, etc. C'est intrusif pour certains. Tu peux couper la caméra, hein, garder que le micro. Mais tu vois plus les autres. Alors ça les intéresse pas non plus de plus voir les autres. Donc, c'est compliqué. Donc, je leur ai dit, écoutez, vous faites comme ça, vous prenez un bout de carton, vous le collez à l'endroit de la caméra, elle filmera votre carton, mais elle restera active, vous verrez les autres. Ah bon, on verra. Enfin, tu vois, on en est rendu là.
Merci à Roland Mogne, pour sa libre participation à ce 37e numéro de Reconfinez-vous à nous. Vous avez bien noté sur votre agenda sa visioconférence via l'application Zoom sur le thème « Les plantes magiques, secrètes et symboliques de Bretagne » ce soir, mardi 9 février à 20h. Inscription et renseignements sur le site de l'Agence culturelle bretonne.